sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et je salue d'ailleurs son président-directeur général, Donald Olivier, que je suis très heureux de retrouver. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Bonne pause des fêtes.
Oui, oui, merci. Toi aussi, j'espère.
Une grosse année, oui, et puis une grosse année qui t'attend au parc. Et on va voir ça durant l'émission d'ailleurs avec notre invité, parce qu'on a un invité avec nous, Donald, et nul autre que le président du conseil d'administration de la SPIB, Jean Poliquet. Bonjour Jean.
Bonjour Marc et Donald. Ça me fait un grand plaisir. Je suis honoré d'être invité ce midi. Et j'en profite pour souhaiter à tous les auditeurs une bonne et heureuse année. Il reste quand même 352 jours, que ça vaut la peine.
Et donc, Jacques, on va se tutoyer durant l'entrevue parce qu'on se connaît bien. Donc, on aura un bon moment ensemble pour discuter de ce qui se passe dans le parc. Mais avant d'aller dans nos sujets du jour aussi, puis de revenir sur l'actualité, je rappelle justement à nos auditeurs, auditrices, la possibilité de poser vos questions. Imaginez, aujourd'hui, vous avez les deux grands patrons de la SPIB, donc là, deux pour un, là, c'est, profitez-en. Alors, il suffit simplement d'aller sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, de cliquer sur « Poser vos questions », ou sinon, on peut le faire par texto ou par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. Mais avant d'y aller avec notre ami Jean pour le sujet du jour, on va y aller avec un petit peu un retour sur l'actualité avec Donald, comme on le fait habituellement. Bon, au cours des derniers jours, dernières semaines, il y a eu quand même une bonne couverture médiatique sur le parc industriel. Bon, une marche avec toi dans le Nouvelliste. Après ça, il y a un bilan qui il a été publié dans le Courrier Sud, mais aussi un bilan qui a été fait par Julien Arsenault de La Presse. L'article a pour titre « Bécancour, là où la filière batterie sort de terre ». Je pense qu'il y en est ressorti quand même pas mal de positifs de cet article-là. Hein?
Ben, quand Julien m'a approché en décembre pour venir à Bécancour, ben, j'étais vraiment content parce qu'il voulait venir passer du temps puis constater. Ça fait que donc, j'ai passé pratiquement 3 heures avec lui. Wow. Une heure au bureau, quasiment 2 heures avec la camionnette sur le terrain. Ça fait que donc, moi, c'est sûr, je suis toujours disponible. Puis j'étais content de voir parce que quand... un journaliste qui parle de Bécancour, ça est devenu, je crois qu'il manque quelque chose. Fait que donc, les gens qui lisent des articles dans les journaux, là, posez-vous la question, y es-tu allé à Bécancour ou pas?
Exactement.
Mais Julien Arsenault est venu puis a constaté. Fait que donc, c'était vraiment intéressant. Il était soucieux de bien expliquer ce qui se passait, puis c'était de l'info factuelle. Fait que donc, un article intéressant. Fait que si les auditeurs ne l'ont pas lu, je pense que c'est intéressant d'aller lire cet article-là, qui est sorti, je pense, jeudi matin passé dans la presse.
En parlant d'articles, il y en a un de... ce matin, dans le Nouvelliste, sur un petit peu la congestion routière. On sait que, bon, avec tout ce qui se passe dans le parc industriel, bon, on parle beaucoup de la 30, de la 55, bon, prolongement, doublement de la 30, il y a le doublement un petit peu de la 55 déjà qui est en cours, mais bon, tout cet aspect de congestion routière, c'est un défi là, qui est devant vous, puis je m'adresse autant à Donald que Jean, mais peut-être Donald, par rapport à cet article-là sur la congestion routière, donc c'est une réalité que c'est un défi pour vous autres?
Ça. Bon, mais c'est la mairesse Lucie Allard et Donald Martel qui étaient appelés à réagir, donc ils ont réagi. et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que le ministère des Transports est en train d'étudier le dossier, mais concrètement, il y a des travaux qui ont été faits. T'sais, la fameuse intersection qui a été améliorée et notre voie de desserte devrait ouvrir d'une semaine à l'autre. Il manque juste la lumière au coin de Boulevard Bécancour. Donc, effectivement, il y a des enjeux, parfois, de congestion, mais c'est assez localisé. C'est vraiment les débuts et fins de journée de quart. Fait que donc, on passe dans le parc à 2-3 heures l'après-midi, il n'y a pas de congestion, mais c'est sûr qu'en 6h30, 7h le matin, c'est parfois difficile, et entre 16h30 et 17h30 aussi. Ça fait qu'assurément, il y a un enjeu. Mais peut-être rappeler aussi, la mairesse parlait de la sécurité. C'est pas tant l'autoroute qui est dangereuse que la façon que les gens l'utilisent, la conduisent. Fait que donc, peut-être un rappel, là, un feu rouge, c'est un feu rouge. Et puis, j'ai fait le calcul, hein, à partir de l'extrémité du parc et se rendre au pont La Violette, 80 km/h ou 100 km/h, puis c'est pas tout à fait 2 minutes de différence. Donc, parfois, on se prétend pressé, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'écart de temps quand on ajuste notre vitesse.
Puis, Jean, on le voyait parce que toi, on va y revenir tantôt, t'es à la tête du conseil d'administration depuis près de 10 ans maintenant. Tu voyais venir quand même, et même au niveau de la SPIB, on voyait venir quand même qu'il y aurait de la congestion tôt ou tard avec ce qui s'en venait. Là.
Effectivement, il ne faut pas oublier que durant les 30, 40 dernières années, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Par contre, on se faisait, entre guillemets, reprocher qu'il ne se passait pas grand-chose dans le parc. Depuis 2018, en l'occurrence peut-être 2020, là, on voit tout ça s'en venir. Fait que ça, c'est malheureusement un inconvénient, mais je vais appeler ça un inconvénient temporaire. Et comme Donald le dit si bien, si les gens sont prudents et respectent les limites, il y a des limites qui ont été réduites même par rapport à avant. Avant, c'était 100, je pense, kilomètres tout le long. Là, ils ont baissé à 70. Si les gens respectent ça, il faut qu'ils comprennent que c'est pour une bonne cause qu'on fait ça. Là. On fait pas ça pour le fun, là, parce que si on regarde l'avenir économique avec ce grand projet-là, ça va être extraordinaire.
Quand on parle du rôle du conseil d'administration à la SPIB, bon président depuis près de 10 ans, c'est quoi le rôle du conseil d'administration pour, tu sais, quand on pense à cette croissance qu'il faut quand même gérer, bon, on peut parfois dans des vies d'entreprise ou de corporation gérer la décroissance, mais là, on a quand même l'heureux problème de gérer la croissance, mais ça amène son lot de défis comme conseil d'administration. Comment on navigue à travers ça? Là?
Bien, le conseil d'administration est important. Et il ne faut pas oublier que c'est le seul parc au Québec, peut-être au Canada, qui appartient au gouvernement, à un gouvernement. Tous les autres parcs industriels appartiennent à des villes ou à des industriels. Alors, le fait qu'on appartient à un gouvernement, on relève du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et aussi, on est en très grande relation avec Investissement Québec. Alors, quand un projet comme ça a été annoncé, vers 2020-2021, c'était une grosse aventure qui s'en venait. Puis je répète, il faut en être fier et content parce qu'il aurait pu, les gouvernements auraient pu choisir bien d'autres endroits. On a un port, on a un parc, la grandeur du parc, c'est le plus grand au Canada. Les gens souvent méconnaissent ça. Alors le rôle du conseil d'administration, c'est de, nous on est comme les mandataires du gouvernement du Québec. Donc, on a un projet comme ça, on est en relation étroite avec le ministère de l'Économie, le gouvernement, Investissement Québec qui va chercher les compagnies. C'est Investissement Québec qui a le mandat d'aller chercher les entreprises pour qu'ils viennent investir chez nous. Et aussi, ben, naturellement, avec Donald, Donald, ça va faire 3 ans bientôt qu'il est en poste. Et quand on est allé le chercher, ça prenait... un ingénieur, le mandat de M. Richard, que je salue, était terminé. Alors, Donald a un mandat de 5 ans. Et puis, comme ingénieur, moi, je peux dire, après 2 ans et demi, qu'on est ultra satisfait du développement, parce que quand on dit que le conseil d'administration est mandataire du gouvernement, on avait une enveloppe de 350 millions, là, peut-être je me trompe, 328, puis le conseil d'administration, en collaboration avec la direction, fait un plan stratégique pour que ça se passe, parce qu'on a horreur, Donald et moi, des dépassements de coûts. Et à date, après 2 ans et demi, on est à l'intérieur de l'enveloppe que le gouvernement du Québec nous a confiée.
D'accord.
Puis on se rend compte, je vais vous avouer, avant, parce que j'étais là depuis 2015 jusqu'en 2020, le rôle du conseil d'administration est important, mais c'est un peu plus tranquille parce qu'on a été très souvent déçus des projets qui s'en viennent, possibles. L'économie ne fonctionnait pas. Là, on était content, on était même sceptique au tout début. Mais là, maintenant, on en est fiers. Puis le conseil d'administration tient à établir d'excellentes relations avec toute la direction, Donald et son équipe, et aussi la ville. Parce que la ville... la ville de Bécancour est la seule ville au Québec ou au Canada qui ont un parc industriel de grande importance dans leur ville. Fait que la communication doit être excellente et elle l'est.
Donc, lorsqu'on parle de ce qui se passe dans le parc, on vient de comprendre mieux comment le conseil d'administration assume tout ça, mais lorsqu'on regarde 2024, ce qui s'est développé... Je pense que l'occasion serait belle à ce moment-ci de l'émission, Donald, de d'énumérer les 5 projets majeurs qui témoignent à quel point la filière batterie s'enracine à Bécancour.
Justement. Oui, effectivement. Le premier que tout le monde a vu pousser en 2023, puis davantage avec ce qui a suivi, mais en 2024 a poursuivi, c'est Ultium Cam, donc le partenariat entre GM et POSCO. L'autre qui a démarré, Nemaska Lithium, après ça, EcoPro. Donc, Ford devait être partenaire dans EcoPro, mais c'est EcoPro maintenant qui fait le projet seul.
EcoPro fonctionne toujours.
Oui, quand même. Le projet avance, le projet se poursuit, on a l'intention de mener ça à terme. Il y a Mirai, une autre sud-coréenne qui est arrivée, et puis Air Liquide. Fait que donc, c'est les cinq projets. Et puis, en 2023, on voyait des trucs, mais tu sais, les travaux d'excavation puis de bétonnage, souvent, on passe l'autoroute, on voit l'équipement, mais on voit pas tant que ça les bâtiments sortir de terre. Mais 2024, c'est vraiment là que les cinq projets sont sortis de terre. Air Liquide, ça a été très, très vite. Hein, ils ont commencé ça quelque chose comme juin, et puis ça monte. On voit déjà les équipements mécaniques. Fait que donc, les cinq projets actifs, c'est ceux-là. Et puis déjà, 2025, il y aura des mises en service. Fait que donc, c'est sûr qu'il y a encore des gens, je n'entends encore parler des fois, les gens me disent « ça va-tu vraiment marcher? » Ben oui, la construction avance. Puis, tu sais, qu'on investit un demi-milliard ou un milliard dans une usine, ce n'est pas pour arrêter la construction. C'est pour, ils vont aller à terme et ils vont réussir à ouvrir ces usines-là et à lancer la production.
Parce que trois de ces cinq projets-là, la mise en service, c'est en 2025.
Oui, parce que la première, celle qui a débuté, Ultium Cam, donc première ligne de production en 2025, donc je ne m'avancerai pas sur les dates, c'est eux qui gèrent leur calendrier, mais c'est quelque part comme mi-année, ils vont lancer tout ça. Mais il y a deux entreprises qui sont reliées, donc parce que Air Liquide doit fournir certains services à Ultium Cam pour sa mise en service. Mirae est aussi un partenaire, ils ont une relation client-fournisseur. Et évidemment, la SPIB aussi, on est dans la mire parce que la SPIB, on doit rendre disponible des infrastructures, l'eau industrielle et tout ça. Donc, nous aussi, le fait que Ultium Cam démarre cette année, ça nous amène une pression de livrer, ce qui est bien correct.
Puis on parle de 2500 travailleurs qui sont mobilisés sur les cinq chantiers. Ça fait du monde pour un président de conseil d'administration de la SPIB qui voit travailler autant de monde sur son terrain, on peut dire comme ça, ça doit être réjouissant.
Bien, c'est très réjouissant, puis sans compter qu'il y a aussi 2000 employés qui travaillent dans le parc, dans les alumineries, chez Arkema, chez Cepsa, etc. Fait que ça fait comme 4500 personnes. Donc, je disais tantôt à la population d'être tolérante parce qu'il n'y aura pas 2500 personnes toute la vie dans le parc. Fait que c'est le compromis qu'on doit faire, à mon avis, pour une excellente nouvelle qui est plus. C'est plus une nouvelle, là, ça se concrétise, comme Donald vient de le dire.
Avec des impacts à long terme bénéfiques au niveau de l'économie de Bécancour, du centre du Québec, de la Mauricie aussi, parce qu'on sait beaucoup. Beaucoup demeurent à l'autre côté du pont. Là.
Parce que, tu sais, on va sortir les chiffres dans les prochaines semaines sur les retombées économiques, mais c'est quand même au moins 80 % des retombées économiques qui sont au Québec. Fait que sur un contrat de 100 millions, il y a 80 millions qui est dépensé au Québec, exemple. Fait que ça, on va le préciser dans les prochaines semaines. Fait que ça, c'est pas négligeable. Mais là, ce qui s'en vient, c'est, tu sais, la construction, c'est comme un élément précis dans le temps. Ça revient pas.
Exactement.
Mais après ça, ce sera les contrats, les retombées économiques reliées à l'opération de ces usines-là, ce qui va démarrer en 2025. Fait que ça va être un autre pan de retombées économiques aussi.
Donc, après la pause, on va prendre le temps de la deuxième partie de l'émission pour revenir un petit peu sur 2024, les faits saillants, pour ça va mettre en relief pour nos auditeurs auditrices à quel point ça a bougé dans le parc. Et donc, on prend vos questions. On a déjà commencé à recevoir des questions. Et on vous invite à le faire durant la pause, même à nous écrire sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes pour poser vos questions. Ou sinon, par texto ou par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. Et nous serons là disponibles, Donald et Jean, pour répondre à vos questions sur ce qui se passe dans le parc industriel de Bécancour, ce qui s'est passé en 2024, ce qui s'en vient, mais aussi tous les enjeux de congestion routière, etc. On vous revient après la pause et on répond à vos questions.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Alors, on vient de recevoir des questions et ça, on aime ça parce que l'émission sert justement à répondre aux questions des gens. Et une première question nous provient de Lynn de Bécancour qui pose la question suivante. Pourquoi avoir interdit le virage à droite au feu rouge à la lumière du boulevard Bécancour? En dehors de l'heure de pointe, on perd du temps à attendre le feu vert alors qu'il n'y a pas de trafic. Sinon, pourquoi ne pas avoir mis une interdiction lumineuse comme à Trois-Rivières qui est en vigueur que lorsqu'il y a du trafic, Donald?
Écoutez, la question, ce serait probablement, le MTQ serait probablement mieux placé pour moi pour répondre, mais je me lance quand même avec ce que je pense qui est à l'origine de cette restriction-là, c'est probablement pour des raisons de sécurité. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment un trafic important, qu'on transite le plus possible de véhicules d'est en ouest. Et puis, assurément, c'est pour minimiser les chances d'accidents. Après ça, est-ce que le ministère des Transports pourrait peut-être moduler en fonction de la journée? Bonne question. Je sais que parfois, il y a des feux qui peuvent être modulés, mais là, une interdiction de dire des plages horaires, bonne question, mais on pourrait relayer le tout au ministère des Transports, voir comment il se positionne sur ça.
Deuxième question qu'on a reçue de Frédéric Morin, également de Bécancour. Est-ce que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et sa menace de tarifs risquent d'avoir un impact sur les projets d'usines de batteries du parc industriel?
Écoute,
puis peut-être Jean pourrait compléter.
On n'a pas parlé de ça dans la revue médiatique, revue de l'actualité, mais c'était peut-être trop gros.
On pourrait en parler à chaque semaine.
Oui, on pourrait en parler tout le temps, mais assurément, c'est une préoccupation. Là. Donc, on n'est pas en mesure de répondre, y a-t-il un impact, y a-t-il pas d'impact, mais assurément, c'est une... J'espère que ce sera juste une distraction, là, parce qu'on connaît la stratégie de négociation, puis on l'a vu aller un peu. Fait que j'espère que ce sera juste une distraction, mais assurément, c'est on peut se poser plein de questions. Et ce qui est quand même rassurant d'un côté, c'est que le Québec fournit beaucoup d'énergie. Donald Trump parle du bois d'œuvre puis du lait, mais n'a pas parlé des électrons, de l'électricité qu'on fournit, n'a pas parlé des minéraux stratégiques du Québec. Fait qu'on aura des atouts, mais c'est sûr que c'est particulier comme situation. Fait que donc, on est comme votre auditeur un peu sur le qui-vive, de suivre un peu ce qui va se passer comme discussion, comme négociation.
C'est inquiétant, Jean?
Bien, c'est parfois inquiétant, mais je vais vous avouer que ça fait depuis le 5 novembre qu'on est inquiet un peu. Le temps passe, là, ça fait déjà 2 mois et le 20, ça va être l'entrée en fonction. L'important, c'est que nous sommes à l'affût. On prépare différents scénarios, puis les entreprises aussi, nous, on peut répondre, mais les 5 entreprises que Donald mentionne ont aussi leur mot à dire. Fait qu'on va se consulter puis on va agir au fur et à mesure, mais c'est malheureusement, tout le monde est dans l'inconnu. Vous posez cette question-là à des alumineries, vous posez les questions à n'importe quelle compagnie. On est tous préoccupés, mais l'important, c'est qu'on est conscient et qu'on ne prend pas ça à la légère.
Une chose certaine, là, on est devant l'incertitude, mais il y a eu des certitudes en 2024. Ça a bougé dans le parc industriel de Bécancour. Puis là, on peut faire une revue rapide de ce qui s'est passé en 2024. Donald, il a vu même communiquer des articles là-dessus sur le fait que la filière batterie s'enracine à Bécancour. On peut commencer déjà au mois de mars 2024, lorsque Air Liquide a commencé ou a commencé la construction de son usine de séparation d'air pour desservir justement les usines de batterie.
Oui, donc ce chantier-là, évidemment, la transaction immobilière a eu lieu en début d'année, fait que c'est un chantier qui a démarré assez tôt au printemps. Et puis Air Liquide ne sont pas directement dans la filière batterie, mais fournissent les services d'oxygène, azote, argon aux entreprises. Fait que donc ça, c'est un chantier de plus qui s'est ajouté et puis qu'on est bien content. Air Liquide est déjà présent dans le parc avec l'usine de production d'hydrogène et aussi de séparation d'air qui est plus au cœur du parc, mais celle-là est dédiée aux joueurs de la filière batterie.
Puis aussi, bon, Jean, au mois de mai, tu étais sur place, je crois, lorsque le premier ministre François Legault est venu en visite des installations de l'usine Ultium Cam. Donc, tu assistais à cet événement-là au mois de mai 2024.
Oui, effectivement, on a eu une primeur parce que l'Ultium Cam n'était pas tout à fait prêt. Et on a visité, malgré ça, l'usine là, avec une foule de barrières de sécurité. Et notre premier ministre a quand même constaté que c'était pas un projet, que c'était, il visitait une l'usine réalité. Qui va être la première qui va être prête. Et ça a été très bien vu. Puis nous, on est content que notre premier ministre vienne, puis il est venu à plus d'une reprise. Alors, c'est tellement important, ce projet-là. Puis parfois, malheureusement, avec ce qui se passe sur la rive sud de Montréal, McMasterville et la ville connexe, souvent, on c'est malheureux, mais on pense qu'à Bécancour, tout c'est la même chose.
Ça vient occulter ce qui se passe.
Oui, mais par contre, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Il y a eu Ford qui a pris une petite... Je dis Ford, c'est EcoPro qui a pris une petite pause l'été passé, puis ça l'a provoqué des questions qui étaient légitimes. Mais un mois après, ça l'a continué. Là. Fait que c'est EcoPro est en fonction. Tout est en fonction. Mm-hmm. C'est ça qu'on doit être fier dans toute la région de la Mauricie, centre du Québec, parce que c'est ici que ça se passe. On aurait envié d'autres régions d'avoir ça. Là, on l'a. Profitons-en, puis apprécions-le.
Donc, en mai, il y a eu cette visite du premier ministre avec Ultium Cam. Le mois suivant, au mois de juin, on a parlé de l'arrivée d'un nouveau joueur, matériaux avancés, Miraille Canada. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce?
Oui,
ça?
Donc c'est Miraille, un des cinq joueurs. Donc, au bout de Jean-Demers, c'est l'usine la plus près du secteur Bécancourt, du côté nord de l'autoroute. Et donc, micronisation de matériaux de batterie, sont déjà en affaire avec, en Corée, ils ont déjà des liens avec POSCO, qui est actionnaire d'Ultium Cam. Ils vont avoir le même genre de partenariat ici comme fournisseur pour uniformiser les diamètres et les formes des matériaux de batterie pour une question de stabilité et de performance des batteries.
Et on a eu aussi à plusieurs reprises par la suite, plus d'une fois, la visite de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, visite du parc premièrement, mais après ça, elle est revenue pour faire des annonces, entre autres, Nemaska Lithium, pardon, et aussi, bon, il y a eu cette annonce aussi avec le fédéral pour le projet Horizon Bécancour, projet portuaire, donc c'est des projets à plusieurs centaines de millions de dollars, donc la présence répétée de la ministre Fréchette, Donald, ça a été quand même notable, ça.
Oui, elle est venue assez rapidement, en octobre, faire un constat, visiter l'ensemble des chantiers, fait que donc ça a été apprécié de notre part de l'avoir arrivé. C'est toujours intéressant que le ministre s'intéresse à ce qui se passe à Bécancour. Il est revenu pour Nemaska Lithium, mais pour l'annonce portuaire aussi. Et puis cette semaine, elle fait une allocution à la Chambre de commerce de Montréal, et puis assurément, il va être question de la filière batterie, et Bécancour devrait être mentionné, plus que mentionné aussi, on devrait en parler aussi, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais tu sais, il y a d'autres projets de la filière batterie qui sont peut-être plus en situation difficile, mais ici, sans dire que c'est facile, somme toute, ça va quand même bien.
Elle a participé aussi, bon, à des annonces conjointes avec le fédéral pour le port, puis souvent, on ne parle pas assez du port, ou on ne réalise pas à quel point Bécancour dispose, et le parc industriel dispose d'un port assez unique, là.
Oui, c'est assez étrange parce qu'effectivement, il y a des gens tant sur la rive, peut-être plus sur la rive nord que la rive sud, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un port. Mm-hmm. Puis juste à titre d'exemple, la filière batterie n'a pas commencé, puis il y a près de 180 navires en 2024 qui sont venus au port de Bécancour pour servir les entreprises du parc en particulier. Et ce parc-là a 56 ans, là. Le mm-hmm. port aussi a 56 ans, là. C'est assez extraordinaire. Puis je souligne la présence de Mme Fréchette parce que la première conférence qu'elle a faite depuis qu'elle est ministre, c'est à Bécancour. Mm-hmm. Fait qu'on souligne puis sa facilité d'adaptation et à maîtriser les dossiers. Parce que moi, je ne veux pas oublier l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon.
Moi, puisque vous connaissiez aussi puis que vous aviez quand même contacté à l'époque pour...
Oui. Pardon. Ça m'a impressionné à l'époque parce qu'il avait été élu en octobre 2018. Et on lui avait demandé de venir faire un tour à Bécancour parce que je suis pas sûr que lui était venu à Bécancour. C'était un homme d'affaires. Et puis, il est venu le 26 novembre 2018. Puis, je vais appeler ça la bougie d'allumage. Mm-hmm, mm-hmm. Parce que depuis ce temps-là, ça a vitesse grand V. Ouais. Moi, j'ai rarement vu ça, un parc industriel et portuaire se développer à cette vitesse-là. Je suis impressionné. Puis, je reviens un peu, Marc, au niveau du conseil d'administration, ouais. Donald et son équipe, ensemble, on a fait un plan stratégique. Et je veux que la population sache qu'à chaque réunion, les dossiers sont... On est rendu là. On dépasse-tu au niveau du budget? On est-tu en dessous? Fait que le conseil d'administration est très rigoureux pour... Et c'est ce qui fait que ça va bien, là. On n'aura pas de mauvaise surprise. On pourrait en avoir une, on va l'adresser, mm-hmm. mais à date, c'est une partie du rôle du conseil d'administration.
Évidemment, on pourrait parler aussi du projet de loi 87 qui permet, entre autres, l'acquisition du parc industriel de la Prade. Bon, le plan directeur biophilique aussi. Bon, la nature, ça a toujours été, ou la promotion de la nature dans le parc, ça a toujours été important, Donald?
Oui, puis on veut être un modèle. Fait que donc, évidemment, la fameuse piste cyclable qu'on discute, qui va avoir lieu en milieu naturel, l'aire de conservation à Montesson, différentes initiatives, c'est sûr que c'est tout dans ce créneau-là. Et puis, on est à l'étape des consultations encore, mais assurément, 2026, les travaux de la piste cyclable, entre autres, devraient commencer. On devrait officialiser vraiment le territoire de conservation quelque part à la fin de l'été 2025.
Puis Jean, ton président directeur général va participer à Défi des Jardins 2025, Key West, Nicolette Bécancour. Donc, tu le libères de ses tâches pour aller pour une bonne cause.
Oui, mais il m'a dit qu'il garderait son téléphone sur lui. Je ne le dérangerai pas pendant les 135 kilomètres. Mais Donald, en plus d'être un ingénieur puis un opérateur, hors pair, c'est un athlète. Mm-hmm. Alors, on lui permet de nous représenter si bien à travers le Canada pour ce bel événement.
Puis en passant, on est rendu, je pense, à près de 300 000 $ d'amassé pour l'événement, puis c'est pas fini, là. Donc,
et le but, c'est pour cet argent-là?
Saines
pour...
habitudes de vie dans les écoles, les 28 écoles, et merci Nicolet Bécancourt, les sommes vont distribuer dans ces 28 écoles-là. Donc, à date, ça va quand même très bien. Puis on a encore du temps pour amasser des sommes.
Et ça se passe au mois de...
Je sais qu'on revient le 13 juin, okay. Donc on part fin mai, puis on revient le 13 juin après avoir pédalé tout ça.
Wow! Donc, ça valait la peine de le souligner, puis on va en reparler d'ici là également. Dans les faits saillants 2024, bon, il y a quand même aussi le positionnement de la SPIB pour bien connecter avec la communauté. Bon, il y a eu des balados qui ont été faits, puis aussi, évidemment, l'émission dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une réalisation 2024 qui se poursuit en 2025 et qui est important. Dans quelle mesure, justement, peut-être, Jean... comment tu trouves ça important, cette émission-là?
Bien, moi, j'apprécie. On est privilégié d'avoir, avec 95, cette entente-là. Mm-hmm. Et pour la population, ça ne fait qu'informer et de voir que nous, on demeure positif et rigoureux. Et ce projet-là, on va servir d'exemple, j'en suis persuadé.
Puis Donald, qui est mon partenaire hebdomadaire pour cette émission.
Ben c'est une belle tribune parce que c'est sûr que nous, on souhaite expliquer ce qui s'en vient. C'est une belle tribune ici pour y arriver. Et puis, c'est sûr, il faut les mettre en valeur. On a tourné 13 émissions en 2024. Mm-hmm. On a une autre série qui s'en vient. Puis vraiment, moi, j'invite les gens à poser leurs questions. Moi, ça me fait plaisir. J'aimerais beaucoup aller à la rencontre de chaque personne, mais c'est pas possible. Fait que donc, ça prend des tribunes comme ça pour tenter de répondre puis de clarifier des trucs. Et puis le tourisme industriel avec la ville, c'est la ville qui a l'initiative de ça, mais on est en partenariat avec eux. Et assurément, ça reviendra l'été prochain. Fait que c'est une autre façon aussi de parler puis de mettre en valeur ce qui se passe.
Puis on l'a vu ce midi, hein, les questions qu'on a eues, puis on encourage les gens à poser des questions. Donc déjà, la fin de l'émission, déjà, ça passe vite. On se le dit à chaque semaine, la petite demi-heure passe très vite avec tout ce contenu intéressant, mais aussi l'interaction avec les auditeurs, avec nos invités. Donc, on avait dans notre studio aujourd'hui Jean Poliquin, président du conseil d'administration de la SPIB, et évidemment Donald Olivier, le PDG de la SPIB, qui est avec nous semaine après semaine. Et la semaine prochaine, on aura aussi Pierre Duchamp, je crois, de mémoire,
oui,
avec Colin.
Oui, donc, oui, c'est ça, de parler un peu de ce Colin fait et peut-être nous parler aussi de son projet.
Donc, d'ici là, on invite les gens à nous écrire, à poser vos questions. On va sur le site via.fm, on lit le parc en 30 minutes, on clique sur « Poser vos questions » ou le 819-519-9050, 819-519-9050. Et donc, le parc en 30 minutes, c'est là pour répondre à vos questions justement sur ce qui se passe dans le parc industriel de Bécancourt. Bonne semaine à tous et on se revoit la semaine et on se reparle la semaine prochaine.